Mayday, lecture.
Jean Eggland, dans la forêt.
Bien que la pluie qui tombe sans interruption sur la cour soit peut-être la même que celle qui tombait il y a une semaine, le calendrier prétend qu'aujourd'hui nous sommes le 1er février. J'avance à toute vitesse dans l'encyclopédie. Aujourd'hui, je suis arrivé à Forêt. Communauté écologique étendue et complexe, dominée par les arbres et capable d'assurer sa perpétuation. Mais avant de pouvoir mémoriser les 5 grands types de forêts, avec leur densité d'arbres typiques, leur climat et leur sol, j'ai été interrompu par un autre souvenir. Et j'ai levé les yeux de la page pour regarder la forêt par la fenêtre. Dès qu'Eva et moi avons su marcher, notre père nous emmenait faire de longues et lentes promenades le long du chemin de terre, qui, partant de notre clairière, conduisait à la forêt. Nous regardions les fleurs sauvages, écoutions les oiseaux et sautions dans les filets d'eau claire du ruisseau. Nous ramassions des feuilles et poussions doucement du pied des mille pattes et des araignées d'eau, tandis que père attendait à côté de nous, imposant, aussi patient et bienveillant qu'un arbre. Quand nous avions 9 et 10 ans, Eva et moi avons découvert l'une de ces souches à 1,5 km environ au nord de la maison, et nous nous la sommes appropriée. Elle était creuse, et l'espace à l'intérieur suffisamment grand pour faire office de fort, de château, de tipi et de chaumière. Un affluent du ruisseau qui borde notre clairière coulait à proximité et nous fournissait l'eau pour barboter, laver et confectionner des gâteaux de boue. Nous y gardions un service à thé ébréché, ainsi que des couvertures, des déguisements et des casseroles cassées. Et nous y passions chaque minute que nous pouvions grappiller ou obtenir par des cajoleries à jouer à faire semblant.
On dirait qu'on serait des Indiens.
Ou des déesses.
Ou des orphelines.
Ou des sorcières. Qu'on traquerait les cerfs. Qu'on irait danser avec les fées. Qu'un ours arriverait pour nous attraper et qu'on devrait se cacher. À cette époque, la forêt semblait posséder tout ce dont nous avions besoin. Chaque champignon, ou fleur, ou fougère, ou pierre était un cadeau. Chaque bruit, une aventure à explorer. Souvent, nous voyions des cerfs ou des lapins, ou nous entendions le cri des dindons sauvages. De temps en temps, nous apercevions un renard gris ou une moufette. Une fois, nous avons vu un lynx. Deux fois, nous sommes tombés sur des crotales se prélassant au soleil de l'été. Mais chaque fois, nous avons réussi à nous écarter sans les déranger. Nous n'avons jamais parlé du lynx ni des serpents à notre mère. Et elle s'est mise à nous appeler les nymphes des bois. À rire de nos cheveux emmêlés, de nos bras égratignés. Et à oublier de traquer les tiques avant de nous laisser entrer. À la fin d'une journée dans la forêt, nous abandonnions nos vies imaginaires et courions vers la clairière et nos parents vers la réalité douillette d'un repas chaud et d'un bain brûlant et de baisers de bonne nuit. Mais Eva a commencé la danse et tout cela a changé. Au début, j'essayais de la supplier ou de la soudoyer pour qu'elle m'accompagne dans la forêt.
Pas maintenant. Il faut que je travaille mes fouettés. Plus tard peut-être.
Les rares fois où j'arrivais à la convaincre de préparer un pique-nique et de s'aventurer dans les bois, nos jeux manquaient de naturel. Ils avaient quelque chose d'enfantin. Et il semblait toujours que nous retournions à la maison, brûlés par le soleil, piqués par des tiques et de mauvaise humeur. Je tentais de monter seul à la souche, mais le temps que j'y passais alors me paraissait s'écouler avec lenteur. Les bruits lointains des sangliers ou des cerfs me faisaient sursauter. Je me mettais à bondir devant les branches abattues, car elles ressemblaient à des serpents endormis. Et finalement, la forêt n'a plus rien représenté d'autre que la distance interminable qui séparait la maison de la ville.